Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Eine überraschende Zahl von aktuellen Schweizer Kinofilmen befasst sich mit dem Alter, dem Verlust der Autonomie, dem Wunsch nach einem würdevollen Tod. In «Satte Farben vor Schwarz» von Sophie Heldmann etwa waren es Senta Berger und Bruno Ganz, die auf ihre Entscheidungsfreiheit pochten. Demnächst kommt «La Petite Chambre» mit Michel Bouquet und morgen startet «La Dernière Fugue», der jüngste Film der Kanadaschweizerin Lea Pohl im Kino. Michael Sennhauser hat die Filmemacherin getroffen.
Lea Pohl wurde zwar 1950 in der Schweiz geboren und ist hier aufgewachsen, aber sie hat den größten späteren Teil ihres Lebens in Kanada verbracht, die meisten ihrer mittlerweile 16 Filme im Quebec produziert. Von melodramatischen, gefühlsgetriebenen und frauenzentrierten Liebesgeschichten hat sich ihre Arbeit immer mehr in Richtung Ensemblefilm verschoben. Ihr letzter Film, Maman et chez le coiffeur, vor 2 Jahren, war ein in den 50er Jahren angesiedeltes Scheidungs- und Familiendrama. Und in ihrem aktuellen Spielfilm La Dernière Fugue versammelt sich die Familie an Weihnachten im Haus des schwer an Parkinson erkrankten Anatole.
C'est grand-papa.
Er ist kein Sympathieträger, der krakelende, zitternde und ewig unzufriedene Alte. Und es hat schon einiges an Nerven gekostet, sich an diesen Anatole als zentrale Figur im Drehbuch heranzutasten, sagt Lea Pohl. Nicht zuletzt darum, weil alle Förderstellen und Geldgeber uns immer wieder einbläuen, wir sollen mit sympathischen Figuren arbeiten, mit Figuren, die zur Identifikation einladen.
Oui, parce que on nous apprend très tôt et surtout quand on doit passer face aux institutions financières pour financer nos films, que les personnages doivent être sympathiques, qu'on doit les aimer, qu'il faut qu'ils soient, que le spectateur puisse s'identifier au personnage.
Aber die zentrale Figur im Roman Une belle mort, ein schöner Tod von Gilles Courtemanche ist das pure Gegenteil. Im Buch ist es ein unerträglicher Mensch.
Et la proposition effectivement du roman qui s'appelle Une belle mort, écrit par Gilles Courtemanche, faisait une proposition totalement à l'opposé. C'est un personnage, en tout cas dans le livre, exécrable, pour le moins qu'on puisse dire, très écrasant psychologiquement par rapport à ses enfants. Il les battait pas vraiment, mais enfin vraiment une sorte d'autorité outrancière.
Als Vater und Ehemann war dieser Anatole sehr hart und autoritär. Und jetzt, mit 80 Jahren, verliert er seine Kraft, er hat Parkinson, er kann sich nicht mehr selbstständig bewegen, kann kaum mehr verständlich sprechen, er geifert.
Et donc ce vieux monsieur qui a dans le film et dans l'histoire et l'acteur aussi 81 et qui a le Parkinson, il perd ce pouvoir, hein, parce qu'il a, il est malade, parce qu'il peut se déplacer difficilement, parce qu'il a une allocution qui est difficile, parce qu'il bave, enfin tout pour plaire au spectateur.
Kurz, alles, was dem Publikum gefällt. Diese Figur menschlich zu machen, war aber nur eine der Herausforderungen, sagt Lea Pohl.
Et donc le défi était, bon, il y avait plusieurs défis dans le film. Il y avait effectivement le défi d'en faire un être humain avec tous ses travers, mais aussi toute son histoire, son passé, son propre cheminement à travers ça et comment, à travers la maladie, à travers ses enfants, sa femme et ses petits-enfants qui jouent un rôle important aussi.
Aber über seine Kinder, seine Enkelkinder, die auch eine große Rolle spielen, gelingt es ihm, sich zu verändern.
Il va réussir aussi à changer. Et je crois qu'un film est positif et porteur d'espoir dès qu'on est en mouvement, qu'il y a quelque chose qui se déplace dans une histoire. Et à ce niveau-là, je crois qu'on finit par être extrêmement attaché au personnage.
Ich glaube, ein Film ist positiv, sobald er einen in Bewegung versetzt, wenn sich etwas verändert, sagt Lea Pohl. Und dieser vom 80-jährigen Jacques Gaudin eindringlich gespielte Anatole wächst einem im Verlauf der Geschichte tatsächlich ans Herz.
C'est grand-papa.
Der Film spielt vor allem an Weihnachten im Haus von Anatole und seiner Frau. Die Kinder und die Enkel kommen zum großen Festessen, es wird diskutiert und geredet, auch und vor allem über den Großvater und seinen Zustand, manchmal völlig über ihn hinweg. Was er denn nun essen dürfe, was der Arzt gesagt hätte, ob er nicht besser aufgehoben wäre in einem Pflegeheim. Und in diese Familienszenen hineinmontiert werden Erinnerungsebenen. Von denen haben wir im Film im Wesentlichen 2, sagt Lea Pohl. Da sind zum einen die Erinnerungen des Sohns, vor allem diese Geschichte mit dem gestohlenen Fisch.
C'est-à-dire dans le film, il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire du fils qui est directement inscrite par l'histoire du poisson. En fait, de ce poisson volé, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais enfin, qui joue un rôle important, qui est une histoire totalement anodine aux yeux d'un spectateur, j'imagine, mais qui, dans la vie de ce père et de ce fils, joue un rôle extrêmement important.
Das ist die Geschichte einer Ungerechtigkeit, einer Verletzung, die der Vater seinem ältesten Sohn zugefügt hat. Und gezeigt wird das als Erinnerung dieses Sohnes. Dieses Flashback haben wir im gleichen Stil gedreht wie den Rest des Films, sagt Léa Pohl.
Alors ça, c'est une partie des flashbacks. Et c'est tourné de la même façon que le reste du film.
Dagegen haben wir die Familienerinnerungen im Stil alter Super 8 Filme gedreht. Das sind ja fast immer glückliche Szenen, Ausflüge, Ferienerinnerungen. Andere filmt man gar nicht.
Et il y a une partie qui est tournée, ce qu'on dit en Super 8, en fait, qui était la mémoire familiale, qui est une mémoire toujours plutôt heureuse, plutôt positive, parce qu'on ne filme que les événements heureux. Alors c'est le camping, la plupart des scènes sont tournées en camping l'été, et c'est des images de famille où le père peut même jouer avec ses enfants.
Aber wenn es darum geht, diese Erinnerungen festzumachen, dann landen wir bei der Mutter. Es ist die Mutter, die die Familie ausmacht.
Mais évidemment, c'est qui c'est qui se rappelle et qui tire ces flashbacks de sa tête, c'est plus la mère. Parce que la mère, elle fait la famille. La mère, c'est celle qui construit la famille et qui détient la famille. Alors, ces images qui sont la mémoire heureuse des albums photos et du Super 8 appartiennent souvent à la mère.
Wenn ich meine eigene Mutter besuche, sagt Filmemacherin Léa Pohl, holt sie die Fotoalben hervor und die suggerieren fast immer ein glückliches, konfliktfreies Leben.
Quand je vais voir ma mère, elle me sort toujours les albums, on a l'impression qu'on a une vie extraordinaire, sans aucun conflit, aucun. Et voilà.
Für den Film gab es für mich wirklich nur diese zwei Erinnerungsebenen, sagt Léa Pohl.
C'est vraiment juste deux niveaux, je ne sais pas jusqu'à quel point ça se lit bien dans le film, mais pour moi, il y avait vraiment ces deux niveaux de mémoire.
Die Erinnerung der Mutter, wunschgemäß eher positiv, die Erinnerungen an das Kinder-Eltern-Verhältnis oft eher negativ.
Les mères comme mémoire positive, qu'elles veulent avoir l'impression qu'elles ont construit cette famille-là et que c'est quelque chose de positif. Et je dirais les relations enfant-parent souvent négatives.
Im Film sind das vor allem die Erinnerungen des ältesten Sohnes an seinen Vater. Aber es könnten auch andere sein. In der Regel sind es ja die Kinder, welche negative Erinnerungen haben. Der Vater hat das meist anders erlebt.
Là, dans ce cas-ci, c'est fils aîné, père. Mais ça pourrait être le. Donc je dirais pas que le père a une image négative, je dirais plus que c'est les enfants qui ont des souvenirs traumatisants. Pour les parents, souvent, sont beaucoup plus petits. Ils comprennent pas qu'on s'énerve ou qu'on regrette des affaires. Donc, voyons, t'as 40 ans, ma fille, arrête de gratter ces vieilles choses. Mais oui, maman, mais tu sais pas. Bon.
Ein ganz zentraler Punkt in der Dramaturgie des Films von Léa Pohl ist der Machtwechsel zwischen Vater und Sohn. Jener Moment, in dem der Sohn begreift, dass sein einst gefürchteter und manchmal gehasster Vater nun ziemlich hilflos und verzweifelt ist. Und der Sohn hat sichtlich Mühe, damit klarzukommen. Ja, sagt Léa Pohl, er steht dem Vater nahe, gleichzeitig gibt es Momente, da könnte er dem Alten an die Gurgel gehen vor Wut.
Il fait peur, puis il est proche. On sent en lui une exaspération. Oui, il est prêt à sauter sur son père aussi encore.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das alles am Weihnachtsabend spielt. Da stehen alle Familienmitglieder unter Stress.
Mais bon, il faut aussi dire que ça se passe le jour, beaucoup le film, une partie du film, en tout cas la première partie, le jour de Noël, donc c'est une fête familiale où souvent les conflits familiaux surgissent parce qu'on est tous à fleur de peau, puis je sais pas, il y a toujours un moment où tout le monde voudrait que ça soit le bonheur, c'est la même chose que pour la mémoire, on voudrait que Noël soit un moment de bonheur et en fait il y a toujours plein de petites failles qui fait qu'on est toujours sur le bord d'éclater.
Mit Weihnachten, sagt Léa Pohl, ist es ein wenig wie mit Erinnerungen. Man wünscht sich das Glück, gleichzeitig droht dauernd irgendetwas auszubrechen. Aber mit Hilfe seines Neffen entwickelt der Sohn ein neues Verständnis für seinen Vater.
Alors ça commence un peu comme ça, mais le fils faut dire beaucoup aidé par son neveu, le petit-fils de ce vieil homme qui lui a une vision de ce grand-père, ce qui est souvent le cas, très différent des enfants.
Das ist ja oft so. Die Enkel haben die unangenehmen Seiten der Großeltern kaum erlebt, haben andere Erinnerungen als ihre Eltern und darum kann der Neffe seinem Onkel auch unangenehme Fragen stellen.
Parce qu'ils ont pas vécu ce il était probablement pas un tortionnaire pour son petit enfant là, sans exagérer, c'est peut-être un peu exagéré le mot, mais et donc c'est le petit-fils qui va un peu poser des questions assez directes à son oncle et ça va je crois éveiller beaucoup de choses chez ce fils quoi.
Aber wenn dieser Neffe so wichtig ist, warum erfahren wir denn kaum etwas über ihn? Er stellt zwar die entscheidende Frage, ob der Großvater nicht vielleicht doch lieber sterben möchte, als so weiterzuleben.
Si vous êtes pas capable de le regarder en face, laissez-le donc mourir. Si j'étais à sa place, moi c'est ça que je voudrais.
Aber der Junge bleibt damit doch eher eine Funktion im Film. Er bekommt kaum eine eigene Persönlichkeit. Das sei ein typisches Adaptionsproblem, sagt Lea Pohl. Im Roman habe die Familie sozusagen die Funktion des Chores im griechischen Drama.
Alors là, c'est toujours le problème d'adaptation d'un roman, problème ou la force, parce que ça nous force à aller à des endroits où peut-être nous, on n'aurait pas été comme cinéaste. Dans le roman, la famille, c'est le cœur grec. C'est vraiment, les personnages sont là que comme un écho, une voix qui répète un certain nombre de choses. Et le petit-fils, il était plus présent pas plus présent que dans le livre, mais plus présent que le reste de la famille, un peu moins dans la chorale, mais il restait quand même toujours aussi comme en arrière. C'était vraiment la mère, le père et le fils aîné qui étaient le cœur du roman.
Im Herzen des Romans stehen die Mutter, der Vater und ihr ältester Sohn. Ich habe das Drehbuch zusammen mit dem Romanautor Gilles Courtemanche geschrieben und wir haben uns an diesen Kern gehalten.
J'ai donc écrit le scénario avec le romancier. Donc c'est des choses qu'on a gardées.
Aber es gibt doch auch andere Szenen, zum Beispiel die mit dem kleinen Mädchen, das ganz selbstverständlich mit dem Großvater sein Kleinkinderpuzzle spielt.
C'est important de dire que les petits enfants, il y a une petite scène aussi avec une petite fille qui fait un jeu pour un enfant de 5 ans. Elle a reçu un jeu pour Noël, et puis elle a une bonne idée, c'est de le faire avec son grand-père. C'est une scène que je trouve très touchante. Il est content, le grand-père, de faire ça avec sa fille. Bon, à un moment donné, il en a marre, mais enfin, on sent qu'ils sont capables d'avoir un lien, malgré le fait qu'ils bavent, qu'ils marchent tout croche, que les adultes ont beaucoup plus de peine à voir leurs parents se dégrader comme ça.
Die kleineren Kinder werden viel leichter damit fertig, dass der Großvater zittert oder geifert. Ihre Eltern haben mehr Mühe damit, den Zerfall mit ansehen zu müssen. Hängt es denn mit ihrem eigenen Älterwerden zusammen, dass Lea Pohl sich in ihren jüngeren Filmen mehr mit der Familie auseinandersetzt?
Oui, c'est pas ça, je peux pas tellement vous dire, sinon que je crois qu'on on évolue avec nos films et c'est des sujets.
Ich kannte das gar nicht von zu Hause. Diese großen Familienessen, das ist eher typisch für den Québec.
Moi, j'ai pas du tout eu ça comme enfant. C'est des fêtes familiales où on est 10, 12, 14 à table. On n'a pas du tout le sens de la famille chez nous. C'est très québécois aussi. Je sais pas si ici il y a des fêtes comme ça, des grosses fêtes de famille. Noël au Québec, c'est extrêmement important.
Ich habe mich in diese Tischszenen gestürzt. Wir haben viel improvisiert, mit nur einer einzigen, sehr beweglichen Kamera gedreht.
Alors, j'aimais bien me plonger. Le fait que c'est pas tout à fait mon univers, j'ai l'impression que ça me permet une explosion peut-être plus grande. Alors, on a travaillé beaucoup en improvisation, par exemple. Ils avaient des thèmes, les acteurs. Mais pour toutes les scènes de repas et de l'arrivée de la famille et tout ça, c'est fait beaucoup, beaucoup en improvisation. Avec une caméra donc, qui se balade, qui n'est pas toujours à la bonne place, pour essayer de sortir du côté un peu théâtral du roman.
Solche Szenen zu inszenieren, ist die reinste Regiehölle. Darum habe ich improvisiert, fast dokumentarisch gearbeitet. Das bedeutet dann allerdings mehr Arbeit beim Schneiden.
Parce que filmer pour un réalisateur, filmer 14 personnes autour d'une table, c'est l'enfer. Parce qu'il faut filmer tous les angles pour des questions de regard et tout ça. Donc la façon de m'échapper de ça, c'était d'aller en improvisation, puis d'avoir une caméra un peu qui attrape ça de façon presque documentaire. Ça donnait du travail au monteur, par exemple.
Bon. Die Tischszenen sind denn auch nicht nur sehr rasant, sondern manchmal auch richtig komisch.
Presque burlesque.
Oui, plus burlesque, parce que tout le reste de l'histoire, c'est vraiment dur.
Oui, tout à fait. Oui, pour donner de l'air un peu, oui.
Wir wollten damit etwas Luft geben. Die Figuren am Tisch sind schon im Roman eher Karikaturen. Sie haben keine Namen. Der Großvater spricht von der Bankerin, vom Geographen.
Les personnages encore plus campés dans des caricatures. Déjà, juste, ils ont pas de nom. Hein. C'est la banquière, c'est le géographe, c'est l'infirmière. Ils sont déjà caricaturés par une profession.
Und da gibt es diese Fraktion der Buddhisten, welche dem kranken Alten die Freude am Leben und Essen nicht nehmen will, und jene der Mediziner, die auf die Einhaltung der lebensverlängernden Diät pochen.
Et dans le roman, il y avait ce qu'on appelait les bouddhistes et les médicaux. Alors les médicaux étant ceux qui suivent religieusement ce que le médecin a dit, il faut pas qu'il mange trop de sel, il faut pas qu'il mange de gras, non, c'est pas bon pour sa santé. Évidemment, le père, lui, c'est un grand mangeur, il n'arrive pas tellement à suivre ça. Et de l'autre côté, alors qu'on dit les bouddhistes pour dire quelque chose, mais c'est ceux qui disent, bon, laissons-le faire, quoi. S'il vit deux mois de main et puis qu'il a du plaisir dans ce qu'il mange. Alors déjà, la famille est divisée sur cette chose extrêmement simple, c'est comment on s'occupe de nos parents vieillissants et c'est quoi la bonne règle à suivre.
Der burleske Ton hat auch dabei geholfen, nicht jede Figur psychologisch ausführen zu müssen. So konnte ich mich wieder auf die drei Hauptfiguren konzentrieren, sagt Léa Pohl.
Puis, bon, évidemment, tous les conflits latents de la famille ressurgissent à travers cette division un peu simpliste des bouddhistes et des médicaux. Alors c'est sûr qu'il y a un côté burlesque et caricatural là-dedans. Et encore une fois, parce que je ne voulais pas rentrer dans la psychologie de chacun des personnages de la famille pour me concentrer vraiment sur le père, la mère et ce fils aîné qui a des choses à régler avec son père.
Hören wir doch in eine solche Szene am weihnächtlichen Familientisch hinein. Das kanadische Französisch ist für Schweizer Ohren zwar nicht immer ganz einfach zu verstehen, aber es geht ohnehin eher um die Stimmung als um den konkreten Inhalt.
Médecine naturelle, l'homéopathe.
Votre père appelle Mireille l'homéopathe. Il vous appelle toujours comme ça pour vos métiers.
Oui, Mireille, c'est l'homéopathe. Julie, la tragédie. Géraldine, la banquière. Bernard, le géographe.
Moi, général, j'aime bien.
Merci. Moi, c'est l'acteur ou l'artiste, ça dépend. Papa regarde pas ses enfants. Il s'adresse à des fonctions. Peut-être parce qu'il n'a pas vraiment eu. Vendeur de pain Weston puis d'auto usagers. Quand tu connais Ramsès et la Renaissance, tu gardes ça pour toi. Merci. Tiens, papa.
Oh, Chris, André. Tu veux le tuer?
Tu vois, moi, je vais lui faire plaisir. Lui, il veut le sauver. Qui a raison.
Soweit dieser Ausschnitt aus den Szenen rund um den weihnächtlichen Familientisch in Léa Pohls Film La Dernière Fugue. Sie hören Reflexe auf DRS 2. Und von Léa Pohl wollte ich auch wissen, wo sie den Film nun sieht im Vergleich zu seiner Romanvorlage Une belle mort von Gilles Courtemanche.
C'est surtout réduit. Oui, réduit. Il y avait beaucoup plus de flashbacks, des flashbacks très violents entre le père et le fils. Ça, j'ai beaucoup supprimé. Je trouvais que je préférais me consacrer vraiment plus sur le présent avec la suggestion d'un passé difficile sans m'attarder sur... autrement, ça aurait été des allers-retours, de flashbacks. Là, c'est plus comme quelque chose, comme une mélodie qui est en arrière-plan, mais qui vient pas prendre la place, quoi.
Wir haben ganz klar reduziert, sagt Léa Pohl. Im Buch sind die vielen Konflikte zwischen Vater und Sohn viel heftiger ausgeführt. Ich wusste auch immer schon, dass sich die Geschichte des Films zum Schluss hin nicht einfach so entwickelt, wie man es erwarten könnte.
Oui, surtout n'oubliez pas que le titre du roman c'est une belle mort. Alors ça disait, moi j'ai changé le titre déjà en partie pour ça. Et bon, évidemment, moi je le sais qu'il y a quand même quelque chose qui est proposé de différent à la fin que ce qu'on suit dans un premier temps.
Hat Lea Pohl experimentiert im Hinblick auf den Schluss des Films? Verschiedene Dinge ausprobiert? Nicht wirklich verschiedene, sagt sie. Der Film hat ja nicht 15 verschiedene Schlüsse. Aber der naheliegendste ist ja auch zu vorhersehbar.
Pas plusieurs choses, parce qu'il n'y a pas 15 fins. Il y a deux fins. Il y a la fin prévisible. Et il y a la fin qui questionne. C'est-à-dire, la première partie, si je finis le film de la façon prévisible, sans dire la fin, tout le monde va dire, ben oui. Ben oui, c'est normal, on comprend, c'est très bien. Il est, bon, bref,
Der Schluss, den ich gewählt habe, der stellt die gleichen Fragen wie der Roman. Bis zu welchem Punkt ist Hilfe beim Sterben angebracht?
Avec l'autre fin, moi je lance une question. On lance une question qui est, oui, mais jusqu'où c'est bien?
Ist Sterbehilfe grundsätzlich in Ordnung? Oder ist nicht manchmal der geäußerte Todeswunsch schon eine Übertreibung?
Est-ce que chaque fois l'envie de plus vivre ou qu'on trouve que la vie est trop difficile, il y a qu'une solution qui est celle qui est proposée? Ou est-ce que c'est des fois exagéré et que à ce moment-là, si quelqu'un aide quelqu'un, il est plus un ami? Il le dit, le personnage. Il y a une phrase très importante dans le film. Il dit ça à sa copine quand le fils aîné, quand il est chez lui. Il dit, si tu aides quelqu'un à partir, parce que ça pose quand même la question du suicide assisté aussi, et qu'il veut vraiment partir, qu'il n'a plus aucune raison d'être, c'est son ami.
Aber wenn du jemandem beim Sterben hilfst, der nicht wirklich sicher ist, dann bist du kein Freund mehr, sondern ein Mörder.
Mais si tu aides quelqu'un et que cette personne, elle n'est pas sûre, puis que peut-être elle aurait encore superbes années à vivre, et puis elle a sa famille, puis ses enfants, puis que tu l'aides à mourir, t'es plus un ami, t'es un meurtrier.
In der Schweiz kennen wir die Diskussionen um Dignitas und Exit, um aktive Sterbehilfe und um den sogenannten Sterbetourismus von Menschen, die ins Land kommen, weil sie hier auf Unterstützung beim Sterben hoffen. Gibt es diese Diskussion auch in Kanada? Überhaupt nicht, sagt Lea Pohl. Von einer auch nur ansatzweise liberalen Gesetzgebung sind wir in Kanada noch weit entfernt. Hier gibt es kein Recht auf Sterben.
Non, non, on est loin, loin, loin de ça. Non, nous, il n'y a rien de tout ça. C'est encore les balbutiements de loi ou de propositions de loi pour que quelqu'un qui a vraiment une vie complètement de souffrance puisse. Il y a des gens qui demandent, mais ils sont refusés systématiquement. T'as pas le droit. T'as pas le droit du tout.
Im Québec, seien das zwei große Tabus, sagt Lea Pohl, der Freitod und die Sterbehilfe.
Alors, pour le Québec, il y avait vraiment deux gros tabous. La première histoire qui est racontée, c'est déjà un tabou terrible. Et la deuxième, qui pose une question subsidiaire, qui est, oui, d'accord, mais jusqu'où? Jusqu'où on peut aller, puis c'est tout le débat est là, c'est quoi les lois, puis c'est, mettre une loi comme ça, c'est aussi dangereux, évidemment, parce qu'on peut mettre n'importe quoi là-dedans.
Und natürlich ist jedes Sterbehilfegesetz auch gefährlich, denn da kann man ja vieles unterbringen.
Alors moi, j'ai voulu finir le film pour qu'on sorte du film en discutant. Alors c'était ça l'idée.
Meine Hoffnung ist, dass die Leute diskutierend aus dem Film kommen, sagt Lea Pohl. Und wie erklärt sie sich, dass die Schweiz im Hinblick auf Sterbehilfe eine deutlich liberalere Gesetzgebung hat als die meisten anderen Länder?
Quand j'avais 20 ans, je suis partie aux Indes. Et quand je suis revenue, ce qui m'a frappé, je dis, mon Dieu, que c'est un pays de vieux. Je peux bien le dire maintenant, parce que je commence à être dans cette catégorie. Mais je me disais, c'était frappant de voir comment c'est un pays. Et je me dis, qu'il se fasse des lois pour la majorité, c'est peut-être ça qui fait que ces lois passent plus. Oui. Je ne sais pas si c'est un pays où, justement, où, moi, c'est vraiment une supposition, je dis ça vraiment sans trop réfléchir, oui. Mais pourquoi pas.
Das ist zwar nur eine Vermutung, sagt Lea Pohl. Aber schon als ich Anfang 20 von einer großen Indienreise zurückgekommen bin in die Schweiz, hatte ich den Eindruck, das sei ein Land der Alten. Und in diesem Land der Alten macht die Mehrheit vielleicht die Gesetze für die Mehrheit. Dass Lea Pohl nach dem Familien- und Scheidungsdrama Mama est chez le coiffeur nun einen Film über Alte und das Sterben und die Familie gedreht hat, ist doch auffällig. bekommt sie jetzt mit über 60 einfach häufiger solche Stoffe angeboten oder sucht sie sie gar gezielt?
Et moi, ces dernières années, peut-être aussi parce que j'ai adopté une fille, maintenant ça fait 15 ans, elle a 15 ans, mais donc je me suis trouvée mère monoparentale, donc moins de temps d'aller à la recherche de projets ou de me creuser la tête pour trouver le sujet. Y a eu comme le destin qui a fait qu'on m'a proposé indirectement ou directement des projets. Et c'est ces projets-là. Maintenant, j'ai dit oui à ces projets alors que j'ai dit non à d'autres projets. Donc, c'est sûr qu'il y a un choix éditorial dans mes choix.
Als alleinerziehende Mutter einer adoptierten Tochter hatte ich wenig Zeit, mir die Stoffe selber zu suchen, sagt Lea Pohl. Aber jetzt ist die Tochter 15 Jahre alt und außerdem habe ich ja die Auswahl aus den mir gebotenen Themen selber getroffen.
La dernière fugue, ben... Bon, moi, j'ai une maman qui a 83 ans, qui vient d'être placée. Je vois l'environnement dans lequel elle est. Et je pense que de toucher à la vieillesse, à l'âge où nos propres parents sont vers la fin de leur vie, je pense que c'est assez logique. J'ai quand même fait des films toujours proches de qui j'étais et de ce que je vivais.
Ich habe eine Mutter, die ist 83 Jahre alt und vor kurzem ins Heim gezogen. Ich habe immer Filme gemacht, die nahe an meinem eigenen Leben waren. Und bei Maman et chez le coiffeur, da war es vor allem die Kindheit als Thema, ein Thema, das mich immer angezogen hat.
Puis, Maman et chez le coiffeur, ben, l'enfance m'a toujours attiré, quoi.
Hat Lea Pohl ihrer Mutter La dernière fugue gezeigt? Ja, sie hat ihn ab DVD gesehen. Sie hatte die Nerven nicht, zur Premiere an den Solothurner Filmtagen zu kommen.
Elle l'a vu en DVD. Elle avait pas le courage de venir ici. C'est difficile pour elle. Mais quand j'étais venue la dernière fois, je lui avais apporté un DVD. Elle l'avait vu.
Ich hatte meiner Mutter auch vorgeschlagen, sie solle den Film doch zusammen mit den anderen im Altersheim anschauen. Aber das fand sie keine gute Idee. Und wahrscheinlich hatte sie recht. Sagt Lea Pohl.
J'ai dit, tu pourrais le montrer. Elle dit, je crois pas que c'est une bonne idée. Parce que dans la pension où elle est, elle a probablement raison.
Merci.
Merci.
Die schweizerisch-kanadische Filmemacherin Lea Pohl im Gespräch mit Michael Sennhauser über ihren Film La dernière fugue. Der Film läuft morgen in den Schweizer Kinos an.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.